Nous lisons dans Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 13. Matthieu 7, 13. Il est écrit ceci, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. » Voilà ce qui est écrit, « Entrez par la porte étroite, là où ça va demander un certain effort, car le chemin qui ne demande pas d'effort, il est large et beaucoup prennent ce chemin-là, le chemin qui attire, le chemin facile. Et vous savez que dans les anciennes Bibles, il n'y avait pas de versets comme nous les avons, des séparations comme nous les avons là. En réalité, il n'y a pas de séparation. Donc avec le verset qui suit, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. J'ai été conduit à prêcher sur ce thème à cause d'une réflexion. Je regardais le nombre de fausses religions qu'il y a, le nombre de faux prophètes, de faux serviteurs, le nombre de courants religieux qu'il y a, et je voyais que derrière ces courants religieux, derrière ces faux prophètes, il y avait toujours beaucoup de monde. Alors je me posais la question, mais Seigneur, comment les humains vont en grande quantité comme ça suivre l'erreur? Pourquoi l'erreur est-elle suivie par le plus grand nombre? Pourquoi la vérité n'intéresse pas les gens? C'est l'erreur que les humains suivent le plus. Nous avons une réponse par le Seigneur Jésus lui-même. Il dit ceci, il dit « Large est le chemin qui mène à la perdition. » Le chemin qui mène à la perdition est large. parce que c'est le chemin qui fait plaisir à l'homme. Mais étroit est le chemin qui mène au paradis, au ciel, dans les voies du Seigneur. Lorsque nous étions en Israël, on nous a montré une maison typique du temps de Jésus. Et dans ces maisons typiques, il y avait des salles des chambres dans ces maisons-là. On peut dire aussi il y avait des pièces, plutôt. Et il y avait une grande porte qui séparait deux pièces principales. Et dans cette grande porte, hein, par laquelle pouvaient passer même trois personnes, donc ou quatre hein, en même temps, il y avait une petite porte faite au milieu de cette grande porte. Et on nous a expliqué qu'en temps normal, la grande porte reste fermée. C'est la petite porte qui est au milieu de la grande porte qu'on ouvre. Et il n'y a qu'un seul homme qui peut passer à travers la petite porte. Et il doit se courber un tout petit peu parce que la petite porte, elle est un peu basse. Donc, c'est une petite ouverture. Donc, dans la vie normale de la maison, les gens n'utilisent que la petite porte. Et une seule personne peut passer par la petite porte. Mais au moment des grandes fêtes, des grandes réunions, eh bien, on ouvre la grande porte. Ainsi, beaucoup de gens peuvent passer. Alors, quand Jésus disait, choisissez la porte étroite, donc les gens qui l'écoutaient, c'était pas compliqué comme nous aujourd'hui. Ce n'est même pas compliqué pour nous aujourd'hui. Mais c'était pas aussi, comment dire, ça ne demandait pas de réflexion. Les gens comprenaient ce que Jésus voulait dire. Passer par la porte où tu peux passer tout seul. Ne suis pas le mouvement. Parce que la grande porte, c'est beaucoup, c'est le mouvement. Tout le monde suit. Donc quand on ouvre la grande porte, c'est le moment des fêtes. Qui n'aime pas les fêtes? Mais la petite porte, il faut aller chercher l'eau. Tu l'ouvres, tu pars. Tu t'accroupis, tu te baisses un tout petit peu. La petite porte, c'est la porte de tous les jours. Le jour des travaux, le jour de vie normale. Mais la grande porte, c'est le jour des fêtes. Et les gens aiment les fêtes. Les gens aiment l'amusement. Les réjouissances. Et Jésus, quand il leur disait, choisissez la porte étroite, eux, ils comprenaient. Ah oui, il faut être prêt à être seul. Si tu veux suivre Jésus, tu dois être prêt à être seul. Je me posais la question, mais pourquoi beaucoup suivent l'erreur? On a une petite partie de réponse là. C'est écrit. Beaucoup suivent l'erreur. Mais pourquoi? Il y a 1 Jean 2, 15-16 qui nous aide aussi. 1 Jean 2, 15-16. Qu'est-ce qui est écrit? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà ce qui est écrit. N'aimez point le monde. Or, la chair a tendance à aimer le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise de la chair, la nourriture, les vêtements, les penchants sexuels, convoitise de la chair. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Convoitise des yeux. Regardez les choses et les apprécier. C'est les yeux qui ont attiré Ève vers le fruit. Et les yeux attirent, en général, les premiers vers un péché. Et le plus dangereux, c'est la convoitise, non, c'est l'orgueil de la vie. C'est le fait de se croire quelqu'un, le fait de se croire autonome. Et on a tendance à oublier que Dieu est notre maître, notre créateur. Le fait que quelqu'un gère sa vie lui-même, c'est l'orgueil de la vie. Parce que la vie te donne une sorte de suffisance. Tu peux marcher, tu peux parler, tu peux haïr, tu peux frapper, tu peux critiquer. Ça te donne une sorte de force. C'est cet orgueil-là qui fait qu'on se croit quelqu'un. Et ça s'oppose directement à Dieu. Et c'est le plus dangereux parce que c'est le premier péché. On a proposé à Adam d'être comme Dieu. Il a voulu être comme Dieu, l'égal de Dieu, sinon supérieur à Dieu. C'est l'orgueil de la vie. La vie, les choses qu'il faisait, lui ont fait croire qu'il était quelqu'un et qu'il pouvait se passer de Dieu. C'est ça qu'il y a dans le monde. Et dans Galates 5, il nous est dit au verset 19 que les œuvres de la chair, c'est pareil que le monde. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Les œuvres de la chair, c'est ressemble exactement aux œuvres du monde. La chair a les tendances du monde. Et le Seigneur dit, n'aimez point le monde. Et donc, pourquoi les gens suivent la mauvaise voie? Pourquoi tous ces courants religieux ont du monde? Parce que les œuvres de la chair dans l'homme le poussent à aller là où c'est facile pour lui. Un exemple, c'est facile de suivre la religion de ses parents. Il n'y a pas d'effort. On y est déjà. C'est facile. Et l'homme préférerait la facilité. Il suit tranquillement. Mais quand il faut s'opposer, quand il faut subir des persécutions, là, ce n'est plus facile. C'est la porte étroite où tu peux te retrouver tout seul. La porte large, eh bien, c'est la porte où tout le monde passe. La famille est passée par cette religion-là. Moi aussi, je passe là-bas. Mes amis sont dedans, moi aussi j'y vais. Il paraît qu'on donne la nourriture là-bas, j'y vais. Il paraît qu'on donne des pouvoirs là-bas, j'y vais. La foule suit cet homme-là, moi aussi je suis. Ça, c'est la voie facile. Et les gens suivent ça en grande quantité. Et ça fait très mal, bien-aimé, ça fait très mal. Ça fait très mal. Le Seigneur est venu pour nous dire ceci. Je sais bien que votre corps est pourri. Je sais bien que votre chair est pourrie. Mais il y a une solution. C'est la vie du Fils de Dieu. C'est la croix du Fils de Dieu, la crucifixion, la résurrection. C'est la parole de Dieu et c'est l'éternité. Je suis venu vous délivrer de ce corps pour vous amener au ciel. Acceptez de vous mettre à part. Je sais dans quel corps vous êtes. Je sais dans quelle galère vous êtes. Mais justement, c'est pourquoi je suis venu. Et là, beaucoup vont préférer le discours qui facilite la chair. La religion qui autorise la polygamie. Voilà, beaucoup vont là-bas. Celle qui va autoriser la cigarette. Beaucoup vont là-bas. Et les gens suivent par masse. Comme des moutons, ils suivent les autres. La voie du Seigneur, c'est une voie où tu es seul. La porte étroite, une seule personne peut entrer par là. Je prêche ceci, bien-aimé, parce que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Un des arguments que le diable va utiliser contre ceux qui sont seuls, Quand je dis seul, ça ne veut pas dire que tu es seul dans ta vie chrétienne. Non. Tu es seul dans le sens où tu te sens seul. Tu sens que la masse suit autre chose. Et tu sembles seul au travail. Tu sembles seul à la maison. Tu sembles seul dans ta famille. Tu sembles seul, voilà. Tu vois, même si vous pouvez être à 20, à 30, mais chacun de vous, dans sa vie de tous les jours, aura l'impression d'être seul. Alors, bien aimé, ça va de, l'un des arguments du diable sera quoi? Mais si Dieu était avec toi, tu aurais du succès. Si Dieu était avec toi, tu entraînerais des foules. L'un des arguments du diable, c'est quoi? Puisque toi, tu as la vérité. Alors, pourquoi Dieu ne fait pas en sorte que ce soit toi qui prêches à la télé plus que tous les autres? Bien-aimé, le prophète Élie, vous vous souvenez de l'épisode où il a eu à se confronter au prophète de Baal qui était 750. Ils ont chacun invoqué son Dieu. Et ils ont dit que le Dieu qui enverrait le feu, c'est lui le plus fort. Ben, Baal, les prophètes de Baal, leur Dieu n'a pas pu envoyer le feu. Mais quand Élie a prié, le feu est tombé. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple qui suivait les faux dieux, qu'est-ce qu'il a dit de sa bouche? Il a dit de sa bouche, le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Élie. Mais bien aimé, réalisez, vous allez vous rendre compte que à peine le peuple venait de dire le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Élie, quelques jours, même quelques temps après, ils sont retournés vers les faux dieux. Ce n'est pas parce qu'on impressionne que les gens vont suivre la vérité. La vérité est un choix du cœur. C'est un choix de simplicité. Les gens ne suivront pas la vérité parce qu'il y a les miracles. Jésus lui-même a nourri les gens. Il a fait tant de miracles. Mais à la fin de sa vie, toute une foule commença à crier, « Crucifie-le !» Tous ces gens-là avaient vu la gloire de Jésus-Christ. À la fin de sa vie, c'est même ses propres disciples le fuient. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils savent que c'est la vérité. Mais on croyait que la vérité devait gagner. On croyait que la vérité devait être populaire. On croyait que la vérité devait nous délivrer de la mort. Mais qu'est-ce qui se passe là? Comment on arrête Jésus? Je prêche ceci, bien-aimé, pour nous prévenir que le diable va nous faire la même tentation de dire, mais si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. De dire, mais si tu es le Messie, libère-toi toi-même de la croix. Regarde, un tel prophète, lui, il guérit. Il fait des miracles. Dieu est avec lui. Toi, tu critiques que c'est ce qu'il dit est faux. Mais toi, fais-en. Bien-aimé, nous ne sauverons pas les gens par les miracles. Nous sauverons les gens par la vérité. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Beaucoup de serviteurs véritables de Dieu, vous savez pourquoi ils sont tombés? Ils se sont dit, eh bien, puisque c'est nous qui avons la vérité, nous allons tout faire pour les prêcher à la télévision, nous allons tout faire pour les prêcher dans les journaux. Alors, en faisant tout pour s'imposer, eh bien, ils ont fini par faire des compromis. Nous n'avons pas besoin de tout faire pour nous imposer. Notre Dieu est Dieu. C'est lui qui s'impose. Nous contentons-nous de servir la vérité. Contentons-nous de choisir ce chemin qui est étroit. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et on nous a prévenus par le Seigneur dans Matthieu 7. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viendront. Ils viendront. Et il dit jusqu'au bout que même certains vont chasser les démons, ils vont faire des miracles. Mais Jésus dira, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, bien-aimé. Nous avons un choix à faire. Le choix de la vérité. Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire que dans la vérité, il n'y a pas de miracles. Je ne suis pas en train de dire que dans la vérité, il y a la pauvreté. Non. Simplement, la vérité, c'est choisir Dieu. Et c'est Dieu qui devient le chef. Et il nous mène dans les verts pâturages selon son désir, selon sa logique. Nous n'avons pas décidé comment il doit nous mener. Nous n'avons pas décidé que puisque nous sommes dans la vérité, c'est nous qui devons avoir la première chaîne française. Non. C'est Dieu qui nous conduira dans cette vérité-là. La vérité a conduit Jésus-Christ à être crucifié. La vérité a conduit le Paul à être tué. Jacques, on lui a coupé la tête à cause de la vérité. Étienne a été lapidé. La vérité, c'est Dieu qui conduit, bien-aimé. Mais nous sommes dans une époque où la majorité choisit la fausseté. Parce que la fausseté plaît à l'homme. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts à la chair. Nous savons que nous, nous faisons le bien par grâce. Nous ne voulons pas dire que nous nous faisons par des efforts. Mais en faisant le bien par la puissance de Dieu, par grâce, notre chair fournit des efforts de supporter ce bien-là. Ce n'est pas que c'est ta chair qui fait le bien. C'est Dieu qui fait le bien en toi. Mais ta chair doit supporter ce bien-là. Et c'est de cet effort-là dont nous parlons. Que notre chair supporte le bien que Dieu veut faire. C'est Dieu qui va nous donner le cœur de pardonner. Mais notre chair doit supporter cette souffrance-là de ne pas se venger. Notre chair doit supporter ça. C'est Dieu qui va nous donner la patience dans des situations. Mais notre chair doit nous supporter de voir nos ennemis se réjouir sans les maudire. Même si cette patience vient du Seigneur, la chair doit payer la souffrance de supporter le contraire de sa tendance. Parce que la tendance de la chair, c'est se venger. La tendance de la chair, c'est haïr. Alors quand l'Esprit fait le bien en nous, notre chair souffre. Eh bien, c'est ça l'effort dont il est question. Acceptons cet effort-là. Large est le chemin sans effort, où la chair ne souffre pas. On écoute des prédicateurs qui ne parlent que de miracles, qui prétendent qu'ils ont des puissances pour guérir, pour libérer, pour donner de l'argent, pour faire en sorte que toi aussi tu deviennes puissant. Ils ne te parleront pas de ton péché. Ils ne te parleront pas de la repentance. La chair aime ça. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, large est le chemin qui mène à tout ça. Pourquoi beaucoup suivent? Parce que ça plaît à la chair. Ça plaît à la chair. Tous ces faux courants, tous ces faux mouvements plaisent à la chair. C'est pas pour rien que le Seigneur Jésus, dès qu'il a parlé du chemin étroit, il parle des faux prophètes. Parce que la conséquence directe de ne pas choisir le chemin étroit, c'est quoi? C'est que tu choisiras le chemin large. Il n'y a que deux chemins. Si tu refuses le chemin de Jésus, le chemin de la simplicité, le chemin du pardon, le chemin parfois du manque, il dit le Fils de l'homme n'a pas de toi où dormir, le chemin de la foi, de la prière. Si tu refuses ce chemin-là, forcément, tu vas prendre le chemin large. Donc, dès qu'il a parlé du chemin étroit, il parle des faux prophètes. Nous nous souvenons que dans la parole, il est écrit que dans les derniers temps, le mal va s'accroître. Mais en même temps, on dit aussi que dans les derniers temps, il y aura des gens qui vont se proclamer Christ. Il y aura beaucoup de faux prophètes. Donc, plus l'homme fonce dans le mal, plus il va y avoir des prophètes de perdition pour le perdre. C'est lié. C'est lié. Donc c'est la réponse que j'ai reçue à mon souci. Pourquoi les gens suivent l'erreur? Parce que l'erreur plaît à la chair. Parce que l'erreur fait vivre la chair. Et en refusant la porte étroite, forcément, ils vont suivre le large chemin, mais qui mène à la perdition. Ça finit toujours mal. Vous savez, autrefois, les gens avaient une crainte de Dieu, même si tous ne se convertissaient pas. Il y avait un certain respect. Aujourd'hui, la technologie faisant, la stabilité économique faisant, les gens sont devenus de plus en plus autonomes vis-à-vis de phénomènes naturels. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, ils auront de l'eau dans leur robinet. Alors qu'autrefois, les gens recueillaient, ils avaient de l'eau qu'ils avaient recueillie de la pluie et qu'ils avaient gardée dans les citernes. Donc la pluie avait une importance. Le soleil avait une importance pour la vie même de la personne. Ce qui fait que les gens avaient une certaine crainte du Créateur. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, pendant la nuit, nous avons de la lumière comme si on était pendant le jour. Donc l'humain devient de plus en plus autonome et c'est ce que Paul dit, il devient irréligieux. Il n'a plus un respect naturel de Dieu. Il entre dans l'orgueil de la vie et il va rejeter Dieu. Nous vivons une époque où les gens vont rejeter Dieu. Mais la révélation qui est là, c'est quoi? C'est qu'ils vont pas s'arrêter là à rejeter Dieu. Ils finiront par prendre la mauvaise voie. Quand les faux prophètes viendront, ils les suivront. Parce qu'en réalité, ils rejettent Dieu. Ils finiront par suivre les faux. Ils vont suivre ceux qui... Le yoga, mais c'est des divinités. Les gens qui suivent le bien-être, tout ça, le yoga, mais c'est des divinités. Mais qui se sont travestis pour que ils soient pas reconnus. Ils vont suivre des divinités, ils vont suivre des faux serviteurs, des faux pasteurs, des faux bergers, parce qu'ils ont refusé la voie étroite, la voie de la vérité. Je nous exhorte pour que nous tenions bon et pour que nous comprenions comment Dieu travaille. Nous sommes dans la fin des temps. Matthieu 24, nous allons lire dans Matthieu 24. Verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Voilà le sort des gens de la vérité. Ils seront livrés au tourment. Ils seront haïs de toutes les nations. Le Seigneur nous prévient, bien-aimés. Quand le diable va venir nous tenter pour nous dire, mais si tu es vraiment fils de Dieu, si tu es vraiment vrai serviteur de Dieu, ah ben, la salle doit se remplir jusqu'au dehors. Souvenons-nous des paroles du Seigneur. Vous serez livrés au tourment. Vous serez livrés au tourment. Souvenons-nous. Et verset 10 maintenant. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Donc nous verrons la traîtrise, la haine au milieu même de ceux qui sont officiellement chrétiens. C'est des choses, on est prévenu de ça là, de cela. Et le verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà ce qui est écrit. Ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, le mal, se sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc l'amour, même de beaucoup de chrétiens, va se refroidir. Parce que le mal sera tellement grand que ça va les décourager. Et ils vont commencer à se refroidir, à se poser des questions sur leur choix. Bien-aimés, tout ça nous est déjà annoncé d'avance. Alors tenons ferme. Tenons ferme. Maintenons-nous dans la vérité. Le Seigneur défendra la vérité. Il est écrit dans Malachie, il y aura un temps où on verra la différence entre ceux qui prient dans la vérité et ceux qui prient dans la fausseté. On verra ça. Parce que le juste se plaint. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis le Premier Testament, le juste se plaint toujours. Mais Seigneur, mais nous on est juste. Mais comment les méchants semblent prospérer? Dieu dit, vous allez voir. Et dans la vie d'un juste, il y a un jour où Dieu va faire la différence entre lui et le reste. Ça va venir. Mais ça ne sera pas tout le temps. Mais ça va venir. Il y aura des moments. Et ces moments-là seront très importants. Vous savez, quand Dieu a fait la différence entre Jésus et les pharisiens, le peuple a suivi Jésus. Il a dit, voilà la voie de Dieu. Mais ça ne sera pas tout le temps. Quand Jésus a commencé à attaquer le péché, quand Jésus a dit, mon problème, ce n'est pas les Romains, quand Jésus leur a dit, mais ce n'est pas le moment pour moi d'être votre roi, officiellement, la chair a été déçu. Et la chair a rejeté Jésus. Voilà. Les gens l'ont crucifié. Au début, tous, ils l'ont suivi. Mais quand Jésus a commencé à attaquer la chair, ils ont dit non. Nous, on pensait qu'il allait nous libérer des Romains. Nous pensions qu'il allait donner la victoire aux Juifs. Nous pensions qu'il allait nous nourrir tous les jours. À un moment, on dit, fais-nous des miracles. Donc, nous pensions qu'il allait être notre clown pour nous faire des miracles tout le temps, mais tiens, il ne veut plus faire des miracles. Nous pensions, mais non. La vérité va éloigner les gens. C'est écrit, bien-aimé. Jésus lui-même a vécu cela. Et il dit dans sa parole, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. C'est écrit, bien-aimé. Et là, il dit, il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux prophètes qui vont perdre beaucoup de gens. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de faux prophètes qui utilisent la parole de Dieu pour l'argent, qui utilisent la parole de Dieu pour perdre les autres, pour faire en sorte que les autres ne pensent même pas à la vérité. Hier, je lisais un commentaire d'un journaliste païen sur un faux prophète du Nigeria. Bien-aimé, à peine il a terminé, il a fait son article. J'ai lu les commentaires sur Internet, bien-aimé. Les chrétiens l'ont lapidé par les commentaires. Ils ont attaqué ce journaliste-là comme il faut. Et quand je lisais les commentaires des chrétiens, je disais, un païen voit qu'un prophète est faux, les chrétiens ne le voient pas. Où sommes-nous, bien-aimés? J'ai dormi triste, dans la tristesse. J'ai dit, un païen journaliste voit bien que un prophète est un faux. Et les chrétiens ont tapé sur les doigts de ces journalistes-là comme il faut. Tu ne connais rien du tout. C'est un homme de Dieu. D'ailleurs, moi, j'avais des problèmes. Je suis parti la prier pour moi. Les problèmes sont finis. J'entendais les arguments des chrétiens. Je disais, mais c'est pas possible. Alors que le Seigneur nous a prévenus qu'ils feront des miracles. C'est ce que je vais lire là. Matthieu 24, 24, qu'est-ce qui est écrit? Car il s'élèvera de faux prophètes, de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est écrit, bien-aimé. Un païen le voit. Bien-aimé, est-ce que vous avez vu Jésus-Christ guérir quelqu'un et faire la publicité? Dire, voilà, j'ai guéri quelqu'un. En lisant le Nouveau Testament, les actes des apôtres, vous avez déjà vu les Paul, les Pierre faire ça. Guérir quelqu'un et présenter pour qu'on filme. Enfin, il n'y avait pas de caméra à l'époque, mais pour dire aux gens, regardez l'acte qu'on vient de faire. Vous avez déjà vu ça. Bien-aimés, on s'est laissé avoir. Réveillons-nous. Tous ceux qui prient pour les gens, parfois peut-être c'est des vrais, mais qui les présente. Voilà. C'est que, ils disent, c'est que parfois, ils disent, c'est que le Seigneur a fait. Bien-aimé, nous n'avons pas fait ça. La personne que tu as guérie va aller, elle, parler. Ce n'est pas à toi de l'amener comme un trophée. Parce que le faux prophète aussi va amener des gens comme trophée. Et ça va égarer les autres. J'ai profité de cet enseignement pour nous donner des conseils. Nous, les futurs serviteurs de Dieu, attention. Dieu peut t'utiliser dans la guérison, dans les miracles. Laisse les miracles parler. Ce n'est pas à toi de les brandir. Laisse les gens que tu as guéris aller annoncer la parole. Laisse les œuvres parler d'elles-mêmes. Ce n'est pas à toi de brandir les œuvres que tu fais. Il est écrit, ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé. C'est celui que Dieu recommande. Jésus n'a jamais fait ça. Les Paul n'ont jamais fait ça. Au contraire, Jésus est parti loin jusqu'à dire à quelqu'un, ne va pas dire. Il vient de faire le miracle, il dit de ne pas dire. Bien-aimé, aujourd'hui, dans les télés chrétiennes, nous voyons toutes sortes de prophètes qui brandissent leurs miracles, qui brandissent leurs guérisons, en disant, voilà, je suis un vrai, voilà les guérisons. Alors que nous venons de lire qu'ils feront même des prodiges et des miracles. Nous venons de lire, Jésus nous dit dans Matthieu 7, nous les reconnaîtrons à leur fruit. Le fruit, c'est la production. Il faut que le fruit ressemble à Jésus. Si le fruit de cette personne ressemble à Jésus, nous reconnaîtrons qu'il est de Jésus. Nous ne demandons pas la perfection totale de Jésus, mais nous demandons un minimum de ressemblance au Seigneur. Une base de ressemblance. Il faut que ce fruit-là soit semblable au Seigneur. Et beaucoup sont dupés. Ils suivent parce qu'il y en a qui citent le nom de Jésus. Il y a un faux prophète au Nigeria et comment dire, ça s'appelle, je voulais dire son église, mais je ne peux pas en sortir même pas de ma bouche. Son mouvement s'appelle Synagogue, Église de toutes les nations, synagogue. Mais bien aimé, quelle confusion. Tu appelles église et synagogue. Et nous savons que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, quand on cite les synagogues, c'était souvent dans un sens négatif. Les gens allaient témoigner, c'est vrai, dans les synagogues, mais quand dans l'Apocalypse, le Seigneur parle des synagogues, c'est en général dans un sens négatif. Et vous savez quel est le verset qui est écrit sur le mur de l'église? Il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Et il y a Jésus, il y a un homme sur la croix en grand. Alors, vous savez que cet homme-là a du succès fou en Afrique. Les gens quittent les Amériques, quittent l'Australie pour aller le voir. Il est végétarien. Bien-aimé. Tout ça, c'est des choses qu'un chrétien, normalement, quand tu entends quelqu'un végétarien, tu dois... Oh, mais comment il y a la viande? Lui, il ne peut pas manger la viande. Tu dois tiquer. Il dit qu'il ne mange pas le poisson. Parce qu'il y a des gens qui sont sorciers, qui sont demi-poissons, demi-hommes. Pour les délivrer, si tu manges le poisson, tu n'auras pas la puissance pour les délivrer. Bien-aimé, je dis, mais ce n'est pas possible. Et il y a des foules qui suivent. J'étais à Kinshasa, il y a un pasteur qui me disait, bien-aimé, je cite son nom parce que c'est grave, le faux prophète nigérien là. Le pasteur de Kinshasa me dit, tu connais Tibi Joshua? Moi, j'ai dit, oui, je connais. J'attends la suite. Ah, moi, j'ai fait 2 mois pour l'appeler, pour qu'il prie pour moi. Après deux mois, j'ai fini par l'avoir, quoi. Bien-aimé, qui c'est qui donne la puissance? C'est un homme. Vous imaginez qu'on est là, on est en train d'appeler un pasteur d'Australie pendant 2 mois pour qu'il prie pour... Bien-aimé. Le Seigneur a dit quoi? C'est le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Le Seigneur a dit quoi? Que c'est lui qui oint les gens. Dans Éphésiens 4. C'est lui qui donne des dons aux hommes. Il dit dans Corinthiens 12, c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons selon son bon plaisir. Un pasteur qui ose pendant 2 mois appeler juste pour qu'on prie pour lui par un autre. Sous prétexte que c'est lui qui a la puissance qui peut lui conférer. Bien-aimé. Mais quand tu vois maintenant le fruit du pasteur qui me disait ça, parce que j'ai été au culte de son église, quand tu vois que c'est du désordre. Il passait son temps à appeler les gens devant, à donner des paroles de connaissance. Et il posait la question, est-ce qu'on s'est déjà vu? Non. Vous voyez, hein? Donc on ne s'est pas vu, mais j'ai dit ce que je ne savais pas. Je disais, mais non, mais ça c'est quoi? Et les gens étaient là. J'étais là. Il a beau dire acclamer le Seigneur, moi mes mains étaient toujours tranquilles. Levons-nous, j'étais toujours assis. Bien-aimé, j'ai dit non, je ne participe pas. Acclamer le Seigneur. Je suis toujours là calme. Il s'est dit, mais cet homme-là, c'est qui? Un disciple de Jésus, nous sommes, bien-aimés. Nous sommes des disciples de Jésus. Résistons, frères et sœurs. Résistons. On va sembler les derniers. Ils vont avoir les plus belles voitures. Ce n'est pas grave. Nous avons Jésus. Et nous irons au ciel un jour. Un jour, la différence sera vue entre ceux qui sont dans la vérité et ceux qui sont dans le mensonge. Mais je prêche ceci pour qu'on s'habitue à la vie des gens de vérité. La vie des gens de vérité n'est pas forcément simple. Ce n'est pas toujours une vie de succès. Il peut y avoir des moments où la gloire de Dieu se répand. Dieu fait des grandes choses. Il y a des foules qui nous suivent. Mais nous ne souffrons pas toujours. Jean-Baptiste, il a fini comment? On lui a coupé la tête. Il prêchait très bien. Les foules sont venues. Même le roi l'a invité. Mais ils ne suivront pas toujours parce qu'on va les gêner à un moment. Parce que la masse veut ce qui lui plaît. Un vrai serviteur ne peut pas toute sa vie être suivi par des foules. Ce n'est pas normal. Ce qui ne gêne pas. Il peut arriver un moment où les foules suivent parce qu'il y a une action grandiose du Seigneur. Mais quand on va prêcher la vérité, petit à petit, la foule va s'amenuiser. Petit à petit. Parce que l'homme n'aime pas la vérité. Notre combat bien-aimé aujourd'hui, c'est déjà nous, toi et moi, nous maintenir. C'est notre combat d'aujourd'hui. Deuxième combat, sauver les élus. Vous savez, quand vous lisez les Actes des Apôtres, au début, on sent le feu. Hein? Ils obéissent à « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Ils vont partout, ils vont prêcher à gauche, à droite. Mais maintenant, arrivez aux Épîtres et vers la fin des Actes des Apôtres, vous allez avoir l'introduction, vous allez voir l'introduction d'un mot. Un mot qui s'appelle, un mot qui se dit élu. Je crois que les apôtres au début croyaient comme nous qu'ils allaient sauver le monde entier. Il y avait les miracles, il y avait la prédication, il y avait le fruit de l'esprit. Mais avec le temps, ils se sont rendus compte qu'il y a deux. Le monde majoritairement est mauvais et ira en enfer. Ils ont compris qu'il y avait une race qu'on appelle les élus. Cette race-là a choisi Dieu. Il fallait découvrir cette race-là partout où il passait. Et vous allez voir Paul qui dit, on est arrivé à un tel endroit, on a prêché, il n'y a que, il dit, ceux qui devaient se convertir se sont convertis. Ils ont compris que tout le monde n'allait pas se convertir. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Au début, ils pensaient qu'allez, l'humanité entière en sauve. D'ailleurs, c'est l'instruction qu'on leur a donnée. Ce n'est pas mauvais. Mais la maturité, l'Esprit de Dieu leur a montré qu'il y a des élus. Vous allez me dire, mais alors, dans ce cas, pourquoi prêcher puisqu'il y a déjà des élus? Eh bien, ces élus-là doivent accepter le Seigneur. Parce que s'ils n'acceptent pas le Seigneur, ils n'iront pas au ciel parce que c'est Jésus le chemin. Corneille. Vous connaissez l'histoire de Corneille qui était un païen mais qui faisait des dons aux Juifs, qui aidait les Juifs, qui aimait le Dieu des Juifs. Et le Seigneur est apparu à Pierre pour lui dire, va prêcher à Corneille afin qu'il croie et qu'il soit sauvé. Il était un élu, Mais il fallait qu'il entende la prédication. Il fallait aussi maintenir les élus. Pourquoi tous les épîtres, les lettres de Paul, de Pierre, de Jacques? C'est pour que toi et moi, nous puissions nous maintenir. Mais à l'époque, nous n'étions pas encore là. C'est pour que les chrétiens de l'époque puissent rester élus jusqu'au bout. C'était le travail. Maintenir les élus et repérer les autres, les ramener dans le troupeau. Dieu ne nous a pas donné le travail de remplir les stades. Si avec nous un jour il remplit un stade, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça le travail. Le travail, c'est sauver les élus. Il y a des élus. Vous avez dit, mais comment sont-ils élus? Ils sont élus par la préscience de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu, puisqu'il est tout puissant, omniscient, il connaît tout, il sait déjà qui sera sauvé. Et donc, c'est comme si Dieu a déjà parlé au cœur de tout homme. Et il a senti la réaction de tout cœur par rapport à la vérité. Et maintenant, il nous envoie. Il sait que ceux qui ont réagi directement à lui, sans s'en rendre compte, comme il faut, ils réagiront bien avec la parole que nous prêcherons. Et leur salut sera évident. C'est ça, bien-aimé. Nous sommes dans un temps où il faut comprendre ces concepts-là. Parce que tu risques de te décourager, de dire, mais tiens, mais comment la masse ne veut pas venir à Dieu? Tu risques de te décourager. Il y a des élus. C'est comme ça, bien-aimé. Je veux nous dire, tenons bon. Vous savez, la solution pour nous, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort qui est notre solution. Puisque la convoitise, c'est ça qui amène à la perdition. Comment Jésus a réglé l'histoire de la convoitise? C'est la mort. Il a crucifié la chair. Il dit, si la chair meurt, au moins il ne pensera pas à voler. Au moins l'homme ne pensera pas à mentir, à critiquer. Alors il faut qu'on meure. Colossiens 3 nous le dit. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Seigneur, dans Dieu. Il faut mourir. Qu'est-ce que ça veut dire mourir? Ben, accepter de ne pas profiter du corps. Accepter de ne pas profiter des avantages de la chair. À cause de la vérité, bien sûr. Lorsqu'il y a conflit entre la vérité et la chair, on accepte de ne pas profiter de la chair à cause de la vérité. C'est ça la mort. La mort, c'est ça. Lorsque tu sais que tu peux profiter de l'argent de quelqu'un, mais ça va te sortir de la vérité, tu préfères pas. C'est ça la mort, bien-aimé. Lorsque tu sais que, en choisissant un chemin, toute ta classe, tous tes collègues de travail vont se mettre derrière, vont se mettre contre toi, tu choisis quand même la vérité. Tu te tues par rapport à eux. Tu deviens un esclave, tu deviens un moins que rien. C'est ça la mort. La mort, c'est accepter que tes anciennes conceptions ne valent plus rien. Seule la Bible vaut quelque chose. C'est ça la mort. La mort est notre solution. La mort fera qu'on acceptera les injustices. Sinon, bien-aimés, beaucoup d'entre nous, leur amour pour Dieu va se refroidir. Ils auront l'impression que Dieu n'est pas très fort. Ils auront l'impression que Satan est plus fort. Mais bien-aimés, c'est pourquoi nous ne devons pas choisir Dieu par rapport à la puissance. Nous devons choisir Dieu par rapport à la nature de Dieu. Moi, j'ai choisi Dieu parce qu'il est bon. Parce qu'il est amour. Quand je me suis converti, je l'avais choisi parce qu'il était tout puissant. Je faisais les mathématiques, donc pour moi c'était clair, il faut choisir le plus fort. Donc j'ai dit, entre Satan et Dieu, qui est le plus fort? Ben c'est Dieu, puisqu'il est son créateur. Bon, j'ai choisi le plus fort. Voilà. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était l'amour qui devait faire qu'on choisisse Dieu. Je l'aime. Pourquoi je l'aime? Parce qu'il a une nature qu'on ne peut qu'aimer. Parce qu'il y a des temps où tu auras l'impression que Dieu n'est pas assez fort pour toi. Tu cherches une voiture, tu ne trouves pas. Tu cherches une maison, tu ne trouves pas. Tu cherches la conversion de tes frères, tu ne trouves pas. Il y aura des temps comme ça. Si tu avais choisi Dieu parce qu'il était tout puissant seulement, là, tu vas vaciller dans ta foi. Mais quand j'observe Dieu, je dis, mais non. Lorsque mon fils, rien que son doigt se coince quelque part, bien aimé, je souffre. Alors Dieu a laissé son fils mourir à la croix pour nous. Quand je vois ça, je dis, Seigneur, moi j'ai été choisi à cause de ça. Quand je vois Zachée, un homme mauvais, mais que Dieu sauve quand même, je dis non. Ce Dieu-là est bon. Il mérite d'être suivi. On doit choisir Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est amour, parce qu'il est pur, parce qu'il juge le mal. Satan ne juge pas le mal. Il est lui-même le mal, personnifié. Il amène les gens à s'enivrer, à se saouler. Il y a des gens qui boivent même du parfum. Il y a une boisson chimique qui est sortie en Angleterre. Tu peux devenir fou en buvant ça. Et les jeunes boivent cela. Il y a un même qui s'est jeté du haut d'une fenêtre. J'ai suivi un documentaire hier où un jeune homme aux États-Unis qui vendait de la drogue, avec ça, il a flatté les filles d'un lycée ou d'un collège. Donc, c'était toutes les femmes de sa ville. Avec l'argent qu'il avait, il a tiré toutes les femmes. Et alors qu'il avait le sida, il leur a donné à tous, à toutes, à beaucoup. Ça, c'est le diable. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Nous devons choisir Dieu parce qu'il est bon, il est simple. Le diable, c'est le bling-bling. Mais pour tuer à la fin, il vient pour dérober, égorger, détruire. Nous vivons des temps où, bien-aimés, nous devons passer par la porte étroite. Si tu cherches pour te sentir bien, que vous soyez nombreux, ben, tu auras des difficultés. Si tu veux que ta famille te soutienne, ben, tu auras des difficultés. C'est le moment d'être seul, de passer par la porte étroite. Le Seigneur l'a dit. Celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, ainsi de suite, plus que moi, ne peut pas me suivre. Viendra un temps où ça ne sera plus possible parce qu'il faudra passer par la porte étroite. Chacun doit faire son choix. Habituons-nous à la vraie vérité, bien-aimés. Certains d'entre nous ne sont pas chrétiens il y a longtemps. Accrochez-vous à la vérité. Nous qui sommes chrétiens depuis longtemps, nous avons connu beaucoup de mouvements. Nous pouvons nous rendre compte comment on était perdu autrefois. Ne goûtez pas à ce qui perd les gens. Restez dans ce que vous connaissez, qui est la vérité. Quand on se perd pour revenir, ce n'est pas toujours facile. C'est très difficile. Autant s'accrocher à la simplicité de Jésus. Bien-aimé, Jésus fait les miracles. Et il veut le faire pour sa gloire. Mais nous devons le suivre à cause de sa bonté, de son amour, de la vérité. Non pas à cause des miracles, parce que le diable aussi fait les miracles. Ceux qui suivront les miracles, les prophéties et autres finiront mal. Mais ceux qui suivront le Seigneur verront des grandes choses. Bien-aimés, vous avez déjà vu le Seigneur Jésus dire que un tel homme va mourir dans 2 ans, dans 6 mois, donner de telles paroles de connaissance. Vous avez déjà entendu Paul prophétiser même sur des païens comme ça, un tel va faire. Non. C'est des gens, ils ont prophétisé pour des nations, pour des chrétiens, mais pas dans une logique de voyants. Aujourd'hui, quand on entend les prophéties à gauche, à droite qui circulent, c'est entré dans une logique de voyance carrément. Ce n'est pas ça la vérité. On n'amène même pas les gens à se repentir, mais on veut juste qu'ils viennent à nous. Or, ils doivent aller à Jésus. Acceptons la mort, bien-aimé. Et quelqu'un me posera peut-être la question, mais pasteur, comment faire pour discerner les faux serviteurs? Ben, le premier conseil que je vais te donner, sois sans convoitise. Si tu veux être capable de discerner les faux serviteurs, toi-même, commence par être pur. Si toi, tu n'es pas pur, tu ne pourras pas les discerner. Si tu as de la convoitise en toi, il y a un pasteur américain que j'ai entendu, il a dit, on lui a posé la, je ne sais pas si on lui a posé la question, mais il a répondu comme ceci. Il a dit, pour rester dans la vérité, tu dois aimer la vérité à tel point que s'il faut que ta mère ne soit plus ta mère, et qu'elle ne soit plus ta mère. Dès que tu es accroché au monde, d'une manière ou d'une autre, un jour on t'aura. Il faut commencer par tuer sa propre convoitise des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie. Lorsque tu n'as pas tué ça, lorsqu'il y a quelque chose de cette terre qui compte pour toi, le succès, les félicitations, les positions d'honneur, l'argent. Lorsqu'il y a une de ces choses-là qui compte beaucoup pour toi, ou même qui compte pour toi, tu te feras toujours avoir. Pour avoir le bon discernement, il faut être sans convoitise. Il faut être sans intérêt personnel. Il y a des gens qui veulent tellement, par exemple, la guérison de leur fils, la conversion des membres de famille. Ils veulent ça plus que Dieu lui-même. Et un faux prophète va venir. Vous savez que, vous savez, dès qu'on fait, on est dans le péché, ou bien dès qu'on fait quelque chose qui est dans le mal, c'est le domaine du diable, il le sait. Il va le savoir. Il saura que tel a telle tendance, tel a telle tendance. Et il va envoyer un faux serviteur, va venir te prophétiser. Ah, j'ai vu ton frère qui se convertissait dans 2 ans. Toi, tu te dis, mais il ne me connaît même pas. Comment il sait que je tiens à la conversion de mon frère? C'est là que tu te feras avoir. Même quand tu vas le voir fumer, tu vas dire, bon, il m'a prophétisé quelque chose qu'il ne connaissait pas, il est de Dieu, alors que tu viens de le voir fumer. C'est comme ça qu'on arrive à attraper les gens. C'est comme ça qu'on arrive à les duper. Parce qu'on a dit quelque chose qui leur plaisait beaucoup. Vous savez, on voit ça même dans la politique. Pour qu'un président passe, ben il va essayer de toucher le cœur de chacun. Moi, je me souviens, j'étais contre le président actuel pour qu'il passe, président. Mais le jour où j'ai appris qu'il avait parlé chez les évangéliques en bien, ben, mon cœur s'est soulagé. Après, j'ai compris le processus. J'ai dit, ah, mais c'est ça la technique, quoi. Et donc, on va vouloir satisfaire chacun de nos passions. Chacune de nos passions, et puis tu vas oublier après tout ce qu'il fait de reste contre toi. Tu es tellement attaché à quelque chose, dès qu'on satisfait la chose, tu oublies le reste. C'est ça la technique. Et c'est comme ça le diable, il va satisfaire quelque chose auquel tu tiens le plus. Tu tiens à prêcher, il va te donner de prêcher. Après tu oublies tout le reste. Tu tiens au miracle, il va te donner. Après, tu oublies tout le reste. Maintenant, on peut te perdre facilement, bien-aimé, pour avoir le bon discernement. Il faut que toi-même, tu sois sans convoitise. Si tu es sans convoitise, on ne t'aura pas. Même le plus rusé ne t'aura pas. Parce que tu es sans intérêt, sans convoitise. Tu es désintéressé. Maintenant, deuxièmement, comment reconnaître les enseignements de ces gens-là? Les enseignements qui ne correspondent pas à la Bible doivent-nous bouger le cerveau pour nous dire, tiens, il y a un problème. Les enseignements. Quelqu'un qui prêche, qu'il donne la puissance aux gens, il y a un problème. Il y a un problème. L'homme ne peut pas donner la puissance aux autres. Les enseignements doivent nous faire réfléchir. Ensuite, il y a le fruit la production. On va voir la production de cet homme-là, globalement. Parce qu'il y en a. Moi, je me souviens, un faux prophète nous a eu comment? Parce qu'on tenait à la vérité. Hein? Satan sait que tu tiens à la vérité. Il va envoyer quelqu'un qui va prêcher de manière à te satisfaire. Il va te paraître rigoureux. Tu dis, ah, ça c'est bien. Mais en même temps, petit à petit, voilà. C'est pourquoi le premier point, c'est le plus capital. Être sans convoitise. Parce que même quand tu tiens à la vérité et que quelqu'un te semble être dans la vérité, finalement, tu finis par t'attacher à cette personne-là. Et le jour où elle se détourne de la vérité, tu es passé de l'attachement à la vérité à l'attachement à l'homme, tu restes avec l'homme. Mais si tu étais attaché à la vérité et tu étais sans intérêt, même le jour où cette personne-là se détourne de la vérité, tu t'éloignes de cette personne-là. Parce que tu n'as pas d'intérêt. Je reviens sur les autres points. Enseignement, vérifier que ce soit conforme à la parole. Troisièmement, le fruit. Et le Seigneur nous a donné une clé extraordinaire avec le fruit, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour ou l'autre, cet homme-là sortira des contradictions avec, dans sa vie, hein. Dans sa vie, dans tout ce qu'il fait, il y aura des contradictions flagrantes avec la parole. C'est pas pour rien que le Seigneur nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous savez, un arbre, ça peut prendre 10 ans pour me donner les fruits. Certains, pendant 10 ans, on ne verra rien. Rien de réprochable. Mais après 10 ans, le fruit va sortir. Le Seigneur nous a donné une clé terrible en parlant de fruits. Il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un jour, le fruit sortira. Ce que le diable n'a pas, c'est ça, le fruit de l'esprit. Un jour, son fruit à lui finit toujours par sortir. Et donc, quand ce fruit-là sort, oublions le passé. Comment on a eu beaucoup de gens? Quand Dieu a manifesté le fruit mauvais d'un faux serviteur, les gens le suivent maintenant, non plus assez en fonction de ce qu'il manifeste aujourd'hui, mais en fonction de ce qu'il a manifesté dans le passé. Non. Même il est écrit dans Ézéchiel, quand le juste se détourne de la vérité et il commence à pratiquer le mal, il est écrit, sa justice sera oubliée. Si Dieu lui oublie, toi pourquoi tu ne veux pas oublier? Quand Dieu a rejeté Saül, Samuel n'a pas voulu. Bon, mais Dieu dit, mais moi je l'ai rejeté. Donc, Samuel a gardé les souvenirs du passé, alors que la personne est égarée maintenant. Quand Dieu te montrera le fruit d'un serviteur, même si tu l'as connu très bien dans le passé, même si tu l'as connu comme quelqu'un de vrai dans le passé, si le fruit présent n'est plus conforme à la parole, retire-toi. Ne reste pas attaché à l'homme. Retire-toi. C'est ça, bien-aimé. Et les futurs serviteurs, j'en profite pour donner la clé en même temps, la quatrième clé pour reconnaître les faux serviteurs, en donnant en même temps le conseil aux ceux qui vont prêcher plus tard. Un vrai serviteur de Dieu prêchera la réconciliation à Dieu, le pardon des péchés et la réconciliation à Dieu. Un serviteur qui vient vous dire que venez à Jésus, vous aurez un mariage, vous aurez ceci, vous serez guéri. Ce n'est pas un message de Dieu. Peut-être que c'est un vrai, mais qui a suivi des faux. Alors, c'est un des éléments très importants. Lisez le Nouveau Testament. Lisez le Premier Testament. Vous allez voir que les prophètes de Dieu, les apôtres, prêchaient le seul message suivant. Dieu a fait les cieux et la terre. Nous sommes ses créatures, nous devons revenir à lui. Nous devons quitter le monde pour revenir à Dieu. C'est le message principal. Mais pendant qu'il prêche le message dont je vous parle, les miracles se font, les prophéties se font, les paroles de connaissance se font, mais le message, c'est celui-là. Revenons à Dieu, quittons le péché et revenons à Dieu. C'est ça le message. Et toi, quand tu seras prédicateur, c'est ça que Dieu te demande comme mission. Va prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est l'heure de quitter le péché et de revenir à Dieu. La réconciliation avec Dieu. ne va pas prêcher que toi tu es un grand. Ne va pas prêcher que les gens doivent te suivre toi. Prêche Jésus, prêche la réconciliation à Dieu. Et il y en a qui te suivront, il y en a qui ne te suivront pas. Même si deux te suivent, tu marches avec eux. C'est ça, bien-aimé. Je passe maintenant sur le conseil, pour, toujours pour le serviteur de Dieu. C'est le même conseil que je donne là, pour discerner les faux. Enseignement conforme à la parole. Bien-aimé, sois ferme sur la parole. Ferme sur la parole. Dieu va faire que tu vas vivre des choses extraordinaires dans ta vie, des choses extra-bibliques. Mais que les choses extra-bibliques que tu vives ne te sortent pas de la parole. Tu vas vivre des délivrances, tu vas voir des manifestations, tu vas voir des miracles, mais tout ça ne doit pas te sortir de la Bible. La Bible, c'est ta vérité, c'est ta force, ton bouclier. Insiste pour ta propre vie sur le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit te donnera la victoire sur le diable. Le diable fait des miracles, il fait des prophéties, il donne l'argent. Dieu fait ça aussi. Mais ce que Dieu a en plus, c'est le fruit de l'Esprit. La bonté, l'amour, la paix, la bienveillance, le diable n'a pas ça. Et quand toi tu vas manifester le fruit de l'Esprit, tu déstabiliseras le diable. Parce qu'il ne peut même pas prévoir ça. Il y a un grand sorcier, autrefois, il était un frère qui était autrefois un grand sorcier, William Chamberlain. Il a dit, là où le diable échoue, c'est là où il y a l'amour. Parce que le diable n'ayant pas l'amour en lui, il ne peut pas prévoir l'amour. Il peut prévoir les restes, mais l'amour, il ne peut pas. C'est-à-dire que quand même un grand brigand va avoir un élan d'amour, le diable est surpris et il est défait. C'est pourquoi c'est très important de prêcher la parole, parce que la parole va créer cet amour-là dans quelqu'un et le diable est déstabilisé. Il ne peut plus contrôler quelqu'un qui a l'amour. L'amour, il n'a pas ça. Et donc, il ne peut pas gérer ce qu'il ne sait pas. Le fruit de l'Esprit, c'est important. C'est ce qui nous donnera la victoire. Et puis, pour finir, la ressemblance à Jésus. Que personne ne te détourne de la ressemblance à Jésus. C'est le conseil que je te donne, toi qui vas servir Dieu. Cherche à ressembler à Jésus. Lis souvent les Écritures. Et quand j'ai dit Jésus, il y a tous les vrais serviteurs de Jésus. Paul, Pierre, Jacques, Jean. Ne te base pas les serviteurs d'aujourd'hui pour ressembler à Jésus. Les serviteurs de la Bible, c'est eux que tu dois suivre. Ils ont été éprouvés, c'est pourquoi ils ont été laissés dans la Bible. Maintenant, si tu es un serviteur vivant aujourd'hui, qui suit ces serviteurs-là, le même exemple, tu les suis. Mais dès qu'ils sortiront de cet exemple-là, tu ne les suis plus. Paul a dit, il faut suivre ceux qui suivent, vivent comme nous, en parlant de lui, quoi. Vous devez suivre les serviteurs qui vivent comme les Paul, qui ont le même langage que les Paul, les gens. Quand un serviteur n'en a plus ce langage-là des Paul et des gens, il commence à voir le langage des Bénis, de tout ce monde-là, éloignez-vous. Il y a un problème. Il faut suivre le langage de Paul, des gens. La simplicité, l'amour, la fidélité. Quelle espérance on peut avoir devant cette difficulté que nous avons. Quelle espérance, c'est toujours dans la parole. Nous clôturons Apocalypse 3. Vous savez, Salomon a mal fini. Vous savez pourquoi? Parce que tout lui réussissait. Il a mal fini. Quand Dieu permet des difficultés pour nous, les gens de vérité, il veut nous préserver de finir comme Salomon. Acceptons les chemins par lesquels il nous fait passer. Moi, j'ai dit une chose au Seigneur. Seigneur, je préfère la persécution que le péché. Si tu sens que je vais commencer à tomber dans le péché, envoie la persécution pour me réveiller. Voilà. Je préfère souffrir dans la pureté que ne pas souffrir dans le péché. Parce qu'après, c'est la mort. Apocalypse 3, 8. Alors, il est écrit ceci. On peut commencer même au verset 7. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Voilà. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, puisque tu as peu de puissance. Bien-aimé, si tu es quelqu'un de la vérité, accepte de donner l'impression d'avoir peu de puissance. De toute façon, c'est ton Dieu qui a la puissance. Accepte ça. De vivre comme un enfant, comme un agneau. C'est ça la vie des vrais. Accepte cette vie-là. Et le Seigneur dit qu'il y a un temps où il amènera les gens de la fausse synagogue à venir se prosterner devant toi. Comme je vous l'ai dit au départ, il y a un temps où Dieu fait la différence. Mais ce n'est pas pour que ça dure. Parce que si ça dure tôt, on tombera comme Salomon. Il va faire la différence afin que nous soyons fortifiés de savoir que nous sommes quand même dans la vérité. Mais après, nous continuerons une vie d'agneau où notre force ne vient pas de l'argent. Notre force ne vient pas du nombre. Notre force ne vient pas de la puissance. Où notre force vient de l'Éternel. C'est la vie que nous allons mener. Il a dit, parce que tu as gardé ma parole, moi aussi je vais te garder. Il y a une tentation qui vient sur le monde. Bien-aimés, nous vivons ce temps-là. Nous sommes dans le temps de l'église de Philadelphie. Il y a une tentation qui vient sur le monde. Il y a des difficultés qui viennent sur le monde qui vont amener beaucoup à pécher, beaucoup à renier le Seigneur. Mais ceux qui retiennent la parole, Dieu va les garder de cette tentation. Il y a de plus en plus de miracles qui se feront. De plus en plus de prophéties extraordinaires qui se feront. Dieu va garder ceux qui retiennent la parole de toutes ces supercheries-là. Retenons ce que nous avons. Maintenons-nous bien-aimés dans la vérité. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous exhorte à nous attacher à elle, à nous attacher à la Bible, à être sans convoitise. Tellement de gens se perdent, Seigneur, à cause de l'amour de l'argent, à cause de l'amour des biens de ce monde, à cause de l'amour des choses de ce monde. Nous voulons mourir par rapport à tout cela, Seigneur, et être vivants par rapport à l'Évangile. Viens nous aider, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons entendu ce message. Nous voulons que ton Esprit Saint le rende concret dans nos vies, Seigneur. Acceptez de mener une vie de paria dans ce monde. Une vie d'homme seul, de femme seule. Qu'on accepte, Seigneur, en ayant l'espérance de récupérer les élus qui sont encore bloqués par le diable. Aide-nous, Seigneur, à nous battre pour les élus. Comme Paul disait, il souffre pour les élus. Oui, nous voulons nous battre pour les élus que nous ne voyons pas encore. Nous voulons nous battre aussi pour nous maintenir dans la vérité. Aide-nous, Seigneur, à résister à l'atmosphère ambiante qui est polluée, à t'aimer plus que tout, dans le nom de Jésus-Christ.